18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Les gens ne peuvent pas se résigner à être dans une ville sans qu'il n'y a aucun endroit pour les accueillir, pour se nourrir, pour boire un coup, pour vivre. Une ville fantôme dans laquelle plus rien n'existe.
Marseille n'obtient pas la réouverture de ses bars et de ses restaurants. La justice dit non, mais les Marseillais préviennent, on n'en restera pas là.
Oui, question ce soir, Paris sera-t-elle la prochaine sur la liste? Les indicateurs sont très mauvais. Tour de vis supplémentaire en vue dans la capitale, mais aussi à Lyon et Grenoble.
L'épidémie qui a bel et bien accentué la pauvreté en France. 45% des personnes qui ont fait appel au secours populaire pendant le confinement ne l'avaient jamais fait jusqu'à présent.
Un lycéen grièvement blessé à coups de couteau en plein cours par un autre élève. Ça s'est passé à Saint-Denis, en banlieue parisienne, au milieu de la salle de classe.
Quand un bang supersonique fait trembler les Parisiens, l'enquête a été rapide, c'était juste un avion.
Et puis il y a 20 ans, il est gaucher, il ne fait pas rebondir la balle avant de servir. Le français Hugo Gaston a créé la sensation à Roland-Garros. Heureusement qu'il est là.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,59% à 4803 points.
Et la tendance météo avec Anissa, le temps se dégrade.
Oui, assez nettement. Demain, avec une perturbation pluvieuse qui va quasiment toucher toute la France. Et dès vendredi, nous attendons des intempéries exceptionnelles qui arrivent avec la tempête Alex. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et les espoirs douchés donc des Marseillais ce soir qui espéraient la réouverture de leurs bars et de leurs restaurants.
Effectivement, recours rejeté par le tribunal administratif.
Les cafetiers et les restaurateurs assurent qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Écoutez Bernard Marty, il est le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône.
J'essaie de garder mon calme, mais je vous assure que j'ai envie d'être très en colère parce que on préfère, et la juge a préféré, jeter les gens dans la rue avec tous les risques que ça comporte. Moi, en venant ici, j'ai croisé des tas de gens qui n'avaient pas de masque. Alors que dans nos restaurants, ils sont obligatoires. Nous nous réservons le droit d'aller plus loin de manière juridique. Il y a le Conseil d'État, on peut faire appel de la décision. Parce que moi, je dis très clairement que l'arrêté qui a été pondu est un arrêté idiot qui ne va pas dans le sens de l'arrêt du virus. On a l'intention de faire en sorte que ces arrêtés tombent et qu'ils n'existent plus et qu'on puisse rouvrir, certes dans des conditions sanitaires sérieuses, drastiques, tous les établissements de la ville de Marseille et de la ville d'Aix. Nous allons continuer à nous battre. Bien sûr que contre la force de l'État, c'est très difficile parce que nous ne sommes que des petits cafetiers, des petits restaurateurs, mais les gens ne peuvent pas se résigner à être dans une ville sans qu'il n'y a aucun endroit pour les accueillir, pour se nourrir, pour boire un coup, pour vivre. Une ville fantôme dans laquelle plus rien n'existe.
Le président de l'UMI, au micro européen de Nathalie Chevan, s'est noté qu'à Bordeaux, le tribunal a tranché dans le même sens pour les salles de sport et de fitness qui avaient elles aussi déposé un recours, mais qui ne pourront pas non plus accueillir de public. Et maintenant, c'est du côté de Paris qu'on s'inquiète.
Car comme à Marseille, les indicateurs, a priori, se détériorent.
Victor Dolande, le ministre de la Santé, doit s'exprimer demain et présenter donc ces fameux chiffres qui pourraient tout faire basculer pour la capitale.
Oui, pour être classé en zone d'alerte maximale, le dernier degré avant l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, une ville doit remplir trois conditions. Le taux d'incidence d'abord, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, doit être supérieur à 250. Il est actuellement de 259 à Paris. Le taux d'incidence ensuite chez les plus de 65 ans, il doit être supérieur à 100. Il est actuellement de 133 dans la capitale. Enfin, troisième indicateur, plus de 30% des lits de réanimation doivent être occupés par des patients Covid. On est à 32% à Paris. Donc sans lire dans le marc de café, Paris devrait bien basculer dès demain en zone d'alerte maximale. Est-ce que les bars et les restaurants vont pour autant fermer? Pas forcément, me précise à l'instant un conseiller d'Olivier Véran. L'idée, ce serait peut-être de laisser la main à la mairie de Paris dans un premier temps, voir si les mesures déjà prises ont une incidence sur l'évolution de l'épidémie. Et si ça ne marche pas, le gouvernement reprendrait la main pour imposer des mesures plus fortes.
Alors il y a Paris, effectivement, mais on s'inquiète aussi, Victor, pour Lyon ou encore pour Lille.
Oui, à Lille, le taux d'incidence du virus est de 306 cas pour 100 000 habitants et de 159 chez les plus de 65 ans. À Lyon, le taux d'incidence du virus est de 256 au sein de la population générale et de 145 chez les plus de 65 ans. Mais dans ces deux villes, le taux d'occupation des lits en réanimation est légèrement en dessous des 30%. Ce qui n'empêcherait pas forcément le ministre de la Santé de presser les préfets pour prendre des mesures plus restrictives. Et je rajoute que deux autres villes préoccupent beaucoup les autorités de santé, Toulouse, mais surtout Grenoble.
Merci beaucoup Victor Dolande. Le Premier ministre recevra demain matin justement les maires et les présidents de métropole de Paris, de Lyon, de Lille et de Grenoble. Jean Castex qui devrait leur demander d'éventuelles adaptations à des mesures de restriction. Il s'est déjà entretenu aujourd'hui par téléphone avec la maire de Marseille.
Oui, le gouvernement qui annonce également que le chômage partiel à 100% sera maintenu jusqu'à la fin de l'année pour tous les secteurs protégés, l'hôtellerie et la restauration bien sûr, mais aussi la culture ou encore le sport et l'événementiel.
Et à 19h, on verra avec Didier François qu'il n'y a pas qu'en France que les mesures de restriction se durcissent et que partout dans le monde, ces mesures sont de moins en moins bien acceptées par la population.
On savait bien sûr que la crise sanitaire avait accentué la précarité de nombreux ménages. Aujourd'hui, le Secours populaire met carrément en garde contre une flambée de la pauvreté sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, le confinement a fait exploser le nombre de nouveaux précaires, plus 45% selon l'association. Les files d'attente pour les distributions alimentaires continuent de s'allonger. Des femmes et des hommes qui n'auraient jamais imaginé demander de l'aide et dont la vie a basculé.
C'est le cas de Samuel. Il a 36 ans. Après 22 ans dans la restauration, il s'est retrouvé du jour au lendemain sans emploi.
Fin février, j'ai démissionné donc de mon CDI de restauration pour un autre CDI. Et malheureusement, j'étais encore sur une période d'essai, donc mon patron s'est rétracté. Et sachant que j'avais démissionné d'un CDI, je ne pouvais pas bénéficier de chômage. Donc je suis redescendu plus bas, donc au RSA à 500 euros, avec un loyer à 700 euros par mois. Donc c'était complètement insurmontable financièrement. Je n'avais rien. Le frigidaire se vidait de plus en plus. J'ai dû emprunter de l'argent, je suis à 3000 euros de dette. Ça m'a juste permis de pouvoir sortir le nez de l'eau, quoi, pour respirer. Je bénéficie encore du Secours populaire. J'ai besoin de certaines briques de lait, de beurre. Il n'y a pas de petites économies dans la situation dans laquelle je me trouve. Donc malheureusement et heureusement, j'y vais encore.
Samuel, nouveau bénéficiaire donc du Secours populaire au micro européen de Yasmina Katou.
18h06, la suite de votre journal avec ses coups de couteau en plein cours. C'est à peine croyable, un lycéen de 16 ans a été grièvement blessé ce matin à Saint-Denis, en banlieue parisienne.
Oui, frappé par un autre élève âgé de 20 ans à l'intérieur de la salle de classe. Vous êtes sur place pour Europe 1, Hélène Terzian. Est-ce qu'on sait, Hélène, ce qui s'est passé ?
Eh bien, les deux élèves font partie de la même classe de première technologique et ce matin, il était environ 9h lorsqu'ils ont visiblement commencé à se bagarrer en salle de cours. L'altercation a dégénéré puisque le plus âgé d'entre eux a porté un coup de couteau à l'abdomen de la victime. D'après plusieurs témoignages, cet agresseur se sentait harcelé, avait subi des railleries et aurait donc voulu se venger. Un acte de violence qui a bien évidemment créé la stupeur, comme le raconte cet élève devant les grilles du lycée.
On était dans la cour, le directeur qui sort, il nous dit qu'il y a un élève qui s'est fait poignarder. Ils nous ont monté en conférence pour nous dire ce qui s'est passé. Plus pour les élèves de la classe, ils étaient très choqués. Tu te dis pas, mercredi matin, tu te lèves, je vais me faire poignarder aujourd'hui.
La victime a été transportée à l'hôpital, elle est hors de danger et les élèves ont été pris en charge psychologiquement. Quant aux représentants de parents et de professeurs, ils pointent du doigt un manque global de moyens d'encadrement qui s'est d'ailleurs particulièrement ressenti juste après l'agression, explique Jérôme Martin, professeur au lycée et délégué syndical.
En fait, l'élève a été pris en charge en urgence par des camarades de classe et par les professeurs jusqu'à l'arrivée du SAMU, puisque nous n'avons pas d'infirmière dans ce lycée. Alors que nous demandons depuis le mois de septembre, et que nous avons même exercé un droit de retrait pour obtenir une infirmière. Donc on est effectivement sous le choc, mais on est aussi extrêmement en colère.
Le recteur et la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, se sont rendus sur place à la mi-journée. Les cours très vite suspendus devraient reprendre demain après-midi.
Merci Hélène Terzian. Devant le lycée Paul-Éloire de Saint-Denis pour Europe 1. Les députés ont donné un premier feu vert aujourd'hui en commission à une proposition de loi qui va permettre d'allonger de 12 à 14 semaines de grossesse le délai légal pour recourir à une IVG. Le texte est attendu dans l'hémicycle la semaine prochaine. On y reviendra à 19h.
Une perquisition également à la brigade financière, de la brigade financière aujourd'hui au conseil régional d'Île-de-France.
Oui, les policiers sont venus récupérer des documents et entendre des collaborateurs de la présidente. Perquisition dans le cadre de soupçons de détournement de fonds publics.
La présidente Valérie Pécresse.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite du journal avec Isabelle Millet. Ce grand bang qui a fait sursauter des millions de Français, de Franciliens à la mi-journée.
Ouais, c'est vrai qu'on a sans doute un peu les nerfs à vif en ce moment. Le contexte général est assez anxiogène, mais on n'aurait sans doute jamais imaginé un tel mouvement de panique pour un avion, Justin Morin.
Oui, et forcément, au début, on a tous cru à une explosion. Les lignes d'urgence de la préfecture de police ont été saturées par les appels inquiets. Mais il s'agissait bien d'un avion de chasse. Un rafale passé au-dessus de nos têtes en région parisienne à plus de 1000 km par heure après avoir franchi le mur du son. Le ministère des Armées nous a expliqué précisément cet après-midi ce qu'il s'est passé. La police de l'air a déclenché une alerte jugée sérieuse parce que le contrôle aérien a perdu le contact avec un avion civil reliant Brive à Saint-Brieuc dans l'ouest de la France. Un rafale a immédiatement décollé de la base aérienne de Saint-Dizier, à l'est du pays, raconte le colonel Stéphane Spey. Or, vu la distance à parcourir et surtout l'inquiétude liée à la proximité de Paris, le centre opérationnel a très vite donné l'ordre d'accélérer.
Il fallait rapidement comprendre ce qui se passait. Donc, le Rafale a eu ordre, à plus de 10 km d'altitude, de passer supersonique pendant quelques minutes, entre 12h52 et 12h56, au sud de Paris, pour rapidement intercepter cet avion. C'est assez rare parce que, en fait, si on n'a pas une obligation d'interception, on ne va pas le faire. On veut tout simplement pas non plus vous inquiéter pour rien.
Et finalement, le contact radio a été rétabli avec l'avion suspect qui a eu l'autorisation de poursuivre son vol. Fausse alerte donc. L'année dernière, il y a eu 120 sorties d'avions de chasse pour des faits similaires. Mais les autorisations pour passer en vol supersonique sont beaucoup plus rares.
Merci beaucoup Justin Morin, on est rassuré.
120 sorties par an, c'est quand même assez énorme. Hein. C'est une tous les trois jours à peu près.
Mais pas toujours en vol supersonique. Voilà, ça, c'est très rare.
Supersonique. Bien.
Le bang reste rare. Quelle sanction pour Neymar ? La superstar parisienne attend fébrilement la décision de la commission de discipline de la Ligue qui pourrait le sanctionner donc lourdement, ainsi que le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez.
Tous les deux sont accusés d'avoir échangé des propos homophobes et racistes lors du fameux match PSG-OM. C'était le 13 septembre. Ils risquent jusqu'à 10 matchs quand même de suspension. Autant dire que ça serait un coup dur.
Neymar qui, par ailleurs, se retrouve sur la liste noire du fisc espagnol pour une dette colossale de près de 35 millions d'euros.
Il faut pouvoir les rembourser. On part à Roland-Garros maintenant.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Avec les stats du jour, signé Isabelle Millet, qui chaque jour va chercher les statistiques importantes des joueurs qui ont joué. Et aujourd'hui, c'est un Français dont vous allez nous parler. Il ne faut jamais désespérer du tennis français. Et oui.
Oui, même si les têtes d'affiche tricolores s'effondrent les unes après les autres. Il en reste encore sur les cours en ce moment, sous vos yeux, Corinne Boulou.
Oui, Pierre-Hugues Herbert, par exemple, 78e mondial, fait jeu égal en ce moment avec le 7e mondial, l'Allemand Zverev, récent finaliste de l'US Open. 1-7 partout, score identique dans le duel qui oppose en ce moment aussi Benoît Paire, tête de série 23 du tournoi, à l'Argentin Coria, 99e mondial. Mais dans le 3e set, Benoît Paire a été breaké et l'Argentin mène 4-2.
Corinne, on a par ailleurs pu compter aujourd'hui sur un petit jeune, un Français lui aussi, qui a créé la sensation.
Oui, le gaucher Hugo Gaston, numéro 2 mondial junior en 2018, fait partie de cette nouvelle génération de jeunes Français appelés à succéder un jour à leurs aînés, hein, les Tsonga, mon fils Gasquet et autres Simon. Hugo Gaston a le tennis dans le sang depuis qu'il a 2 ans. Il suivait alors son papa, président d'un club dans la région toulousaine. Aujourd'hui, son toucher de balle, ses amortis à répétition et sa capacité à prendre la balle très tôt lui ont permis de bousculer la hiérarchie et de surprendre son adversaire, le japonais Nishioka, 52e mondial, qui a gassé, en a fracassé plusieurs raquettes. Autre particularité du français, il a pris l'habitude de ne pas faire rebondir la balle avant de servir, quand d'autres le font une quinzaine de fois. À 20 ans, Hugo Gaston, 239e mondial, qui bénéficiait d'une invitation, s'offre donc une deuxième victoire en Grand Chelem. Un autre défi l'attend au troisième tour puisqu'il affrontera le Suisse Stan Wawrinka, 17e mondial, victorieux ici il y a 5 ans.
Costaud le défi. Corinne Boulou en direct de Roland-Garros. On précise que Nadal et Dominique Thiem se sont qualifiés sans problème.
Merci Isabelle Millet. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le grand journal de l'info. La météo, 18h14 avec vous Anissa. Vous nous avez rejoint et vous nous annoncez un net changement de temps demain.
Oui, on va vraiment le sentir hein, ce changement de temps avec une perturbation pluvieuse qui arrive dès cette nuit sur l'Aquitaine, de la Bretagne jusqu'aux Landes. Fermez les fenêtres cette nuit parce qu'il va pleuvoir jusqu'aux Ardennes, sur le nord-ouest. Vraiment, ce sont des pluies assez soutenues pour cette nuit. Et puis demain matin, cette perturbation, elle avance avec de la Gironde aux frontières belges, un ciel couvert avec là aussi de la pluie. À l'arrière de cette perturbation en Bretagne, le temps est ensoleillé le matin, comme sur le pourtour méditerranéen, mais dans l'après-midi, des Pyrénées à l'Alsace, donc sur une bande qui va couper la France en deux, nous aurons un temps pluvieux. Sur le quart nord-ouest, là, c'est un ciel de traîne qui se met en place, donc un mélange de nuages, d'averses et d'éclaircies. Et ailleurs, c'est assez tristouné, gris, avec des éclaircies. Il n'y a qu'au bord de la Méditerranée, vraiment, que le soleil est au rendez-vous. Je vous parlais de tempête oui. Dans les titres du journal. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que la tempête Alex va toucher la façade atlantique, avec sur la Bretagne de fortes pluies, tout comme en Normandie, du vent à plus de 100 km/h jusqu'à 140 km/h. Ça va souffler très fort.
D'accord.
Surtout sur les côtes. Ouais, soyez extrêmement prudents. La journée de vendredi sera très agitée, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Les températures pour demain, eh bien, elles repartent à la baisse avec 6 à 14 degrés demain matin, 13 à 24 au meilleur de la journée. Nous aurons 13 degrés à Aurillac, 16 à Paris et 24 au bord de la Grande Bleue.
Et tempête Alex, car A pour Alex, ça veut dire que c'est l'une des premières de la saison. C'est
exactement.
Ça. Quand on s'arrivait à Vladimir, ça voudrait
calé,
dire qu'on en aura
vous
eu un
calé,
certain nombre. Bon, non, mais non, je donne ça pour les auditeurs, pour que chacun comprenne.
Mais
merci.
C'est une des premières tempêtes de la saison, mais qui arrive assez fort et assez vite.
Bien, merci Anissa, à tout à l'heure.